vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir et bonne année. Bienvenue sur Neptune FM pour cette toute première émission de Cordialement Geek de l'année. Et ça datait déjà un petit moment, fait la dernière fois. Alors du coup, cette semaine, je vais vous parler du jeu Super Mario 3D All-Stars. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant le jeu vidéo Project Winter. On aura ensuite une petite news technologie avec KFC. Ben oui, technologie avec KFC, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Et on aura enfin la seule et unique sortie de la semaine côté jeux vidéo pour finir l'émission. On commence donc avec le jeu de la semaine.
It's me, Mario!
Voilà, donc c'est Super Mario 3D All-Stars. C'est une compilation de trois jeux de la série principale Super Mario en 3D, comprenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, dans des versions optimisées avec des graphismes en haute définition accompagnés de leur bande-son originale. Donc elle est sortie le 18 septembre 2020 et elle sera commercialisée jusqu'au 31 mars 2021 sur Nintendo Switch. Donc attention, si vous vous y prenez trop tard, après le 31 mars 2021, vous allez sûrement payer beaucoup plus cher parce que ça sera plus commercialisé. Alors, la compilation a été annoncée le 3 septembre 2020 pour le 35e anniversaire de la franchise. Cette compilation de plateforme action-aventure a été éditée par Nintendo et développée par Nintendo EPD. Elle est jouable en solo et à deux joueurs uniquement pour Mario Galaxy. Elle est classée PEGI 7 et elle obtient une note de 15 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 6 sur 10 de la part de Gamekult. On se doutait de son arrivée et c'est maintenant chose faite. Super Mario 64, Sunshine et Galaxy posent leurs valises sur l'hybride de Nintendo dans une compilation regroupant les trois titres en version remasterisée. L'occasion parfaite pour accorder de nouveau du temps aux aventures du plombier de l'ère Nintendo 64, GameCube et Wii. Le plaisir est-il intact et l'adaptation Switch réussie? Donc 5 années séparent Mario 64 de Sunshine et rebelote entre ces derniers et Galaxy. Le premier, sorti en 1997, ça nous rajeunit pas, est une révolution absolue du jeu vidéo 3D à une époque où des personnages comme Tomb Raider se déplacent comme des semi-remorques. Sunshine s'inscrit par la suite dans le prolongement de son illustre grand frère et marquera moins les esprits malgré une recette efficace. Pour ce qui est de Galaxy, il repoussera les limites de ce que l'on pensait alors possible pour le genre de la plateforme, avec son level design sphérique formidablement bien géré. Une chose est sûre, refaire ces titres aujourd'hui a un véritable intérêt, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution des Mario 3D à travers le temps. Mais il y a aussi un autre intérêt, bien plus simple, celui de s'amuser. Car même sous le poids des années, 64, Sunshine et Galaxy restent de très bons voire d'excellents jeux. Attention toutefois, avec cette compilation, elle sera, comme je l'ai dit, uniquement disponible entre le 18 septembre 2020 et le 31 mars 2021, en édition physique comme en numérique. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Malgré son âge, Mario 64 se fait encore très bien aujourd'hui. Les niveaux et les objectifs sont variés. Les déplacements, bien que quelquefois approximatifs, surtout lorsque le plombier change subitement de direction. Donc ces déplacements sont précis, le challenge est présent et progressif, les musiques sont entêtantes. Le jeu réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend avec ce... alors que ce tout n'existait pas il y a 20 ans. Mais deux ou trois trucs ont évidemment vieilli, à commencer par la caméra assez rigide qui vous empêchera à de rares occasions d'apprécier les distances pour un saut, ou encore le seuil de tolérance pour agripper la queue de ce cher Bowser, qui est quand même assez exigeant. Mais rien de bien méchant, après tout ce temps, on ressort de Mario 64 avec toujours la même admiration et le même plaisir. C'est en revanche un peu moins le cas pour Mario Sunshine, on dit souvent que le titre est moins marquant que son grand et son petit frère. Et avec un peu de recul, il y a bien un arrière-goût de ce genre-là. Donc pas forcément à cause du gameplay qui est plus réactif et permissif grâce au canon à eau, mais plutôt de la structure des niveaux qui est plus fouillie et moins inspirée, à l'instar du gimmick dans le grill. Sans oublier un détail déconcertant, dans Mario Sunshine, la suite de l'aventure semble se débloquer avec un nombre précis de soleils, mais sans que ce dernier ne soit indiqué au joueur. On enchaînera ainsi les zones, pas toujours très intéressantes donc à l'aveugle, ce qui pourra perdre un petit peu les joueurs. Mais attention, on ne passe clairement pas un mauvais moment et certaines idées marchent toujours aussi bien. On se laissera par contre bien plus aller à d'innombrables compliments avec Mario Galaxy, dont la superbe magie est toujours intacte. Pas besoin de s'égarer en explications, l'opus Wii est beau, formidablement bien construit, rythmé et varié et sa BO est superbe. Que dire si ce n'est que l'épopée spatiale du plombier vaut toujours la peine d'être vécue. Sans surprise, les qualités et défauts des trois Mario sont ce qu'ils sont. Mais qu'en est-il des ajouts de cette version 3D All-Stars ? Ce qui saute d'abord aux yeux, c'est bien sûr le lissage haute définition. Pour Sunshine et Galaxy, de docké à portable, ces derniers passent de Full HD à HD, alors que la résolution de l'épisode Nintendo 64 ne bouge pas. Pour le premier Mario 3D toutefois, les textures semblent quand même avoir été améliorées. Précisons aussi que ce passage à l'ère moderne s'y est particulièrement bien à Mario Galaxy, faisant ressortir les couleurs et reflets déjà très réussis de l'époque. Et comme en 2007, le voyage spatial du Pombée tourne à 60 images par seconde, que ce soit en docké ou en portable. Ce n'est en revanche pas le cas pour Sunshine et 64, qui affichent un solide 30 FPS. Au global, les temps de chargement semblent avoir été raccourcis, et Nintendo a aussi revu la jouabilité pour adapter les titres sur Switch, mais pas forcément pour le meilleur. Alors on commence cette fois avec l'Opus Wii. Vous vous souvenez sans doute que le jeu mélangeait des déplacements traditionnels avec un peu de motion gaming, le pointeur de cette bonne vieille Wiimote permettant d'attraper des fragments d'étoiles colorées. Donc pour reproduire le même cocktail sur Switch, Nintendo vous laisse plusieurs options. Faire appel à l'écran tactile en mode nomade, utiliser les deux Joy-Con comme les manettes d'une Wii en docké ou avec la console posée sur la table, et enfin, dans cette même disposition, utiliser un contrôleur avec le gyroscope comme pointeur. Et c'est là que ça se gâte. Car si les sensations comme sur Wii en docké sont bel et bien là, le pointeur des Joy-Con vous embêtera rapidement. Il lui arrive en effet de disparaître sans prévenir d'un écran à l'autre, vous obligeant à le faire revenir à l'aide d'une gâchette. Surtout, en pleine partie, l'alignement entre la manette et le pointeur se décale souvent. Donc il est bien sûr possible de réinitialiser la position de ce dernier, mais sans rentrer dans les détails, la manip est laborieuse et vous fera rapidement envoyer un fragment d'étoile dans le décor, la touche pour actualiser la position et celle pour envoyer un projectile étant la même. En mode nomade, c'est donc le tactile qui prend le relais du pointeur dirigé par le Joy-Con dans le cas d'avant. Et même si côté précision, cette option n'a rien à envier à la précédente, il faudra très souvent toucher l'écran pour réaliser des actions toutes simples, comme naviguer dans le menu pause. De plus, en pleine partie, le tactile se révèle assez laborieux pour ramasser des fragments d'étoiles, eux qui sont parfois importants pour progresser dans un niveau, débloquer des niveaux cachés, voire combattre des ennemis. Et devoir lâcher un côté de la console pour faire glisser son doigt ne pousse pas à en ramasser, et donc privera à terme les joueurs de certains avantages et récompenses, ce qui est un peu dommage. Comme dans sa version originale, le remaster de Mario Galaxy comprend un mode multijoueur. Dans ce dernier, une personne contrôle Mario et l'autre un second pointeur sur l'écran, afin de ramasser plus de fragments, voire faciliter l'avancée du plombier. Sur Switch standard, pas de souci, puisque les deux Joy-Con suffisent pour s'amuser entre amis. Sur Lite, en revanche, il faudra connecter une paire de manettes sans fil pour pouvoir en profiter. Alors attention, les problèmes que j'ai décrits sont mineurs et n'entravent pratiquement pas l'expérience de jeu, mais quand même impossible de ne pas les évoquer. Surtout qu'en nomade, sur Galaxy, une dernière chose interpelle également, les épreuves qui utilisent le gyroscope des Joy-Con. Donc attendez-vous à incliner exagérément votre Switch pour par exemple faire rouler une boule en avant, comme si vous vouliez montrer d'une manière pas du tout discrète vos cartes au poker. Donc pour Mario 64 et Sunshine, pas de souci à signaler côté gameplay, les contrôles des deux titres ayant été initialement pensés pour une manette. Notez d'ailleurs que le remaster de Galaxy a le bon goût de rajouter une touche pour effectuer l'attaque tourbillon, à l'époque uniquement faisable en agitant la Wiimote. Mais les opus Nintendo 64 et GameCube traînent aussi quelques casseroles, à commencer par ce dernier où on note de petits ralentissements, ainsi qu'un gros bug de collision dans un niveau sous l'eau. Bien que les jeux aient fait un petit bond dans le temps grâce à la HD, des soucis d'un autre temps subsistent, comme l'affichage tardif des pièces, voire de plateformes dans Mario 64. Et dans Galaxy et Sunshine, les cinématiques sont clairement en plus basse résolution que le jeu lui-même, alors de nouveau rien de bien dramatique, mais ça commence à faire quand même pas mal. Et ce n'est pas la possibilité d'écouter la BO des trois épisodes qui sauvera les meubles. Mario 3D All-Stars reste une bonne compilation, mais bien plus avantagée par ses jeux que ses supposées qualités d'adaptation moderne. Donc pour résumer les points positifs, on a trois jeux cultes réunis en une compilation. Après des années, ça se joue toujours aussi bien. On a un lissage HD qui fait du bien. Et les trois BO à emporter partout. Pour les points négatifs, on a quand même quelques contrôles laborieux, notamment sur Galaxy. Et on aurait aimé avoir plus d'améliorations. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une musique qui m'a profondément traumatisée quand j'étais jeune. Alors c'est Snow Mountain, une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario 64 qui vient de la compilation donc Super Mario 3D All-Stars, et on viendra juste après. Voilà, voilà. Donc, c'était Snow Mountain, une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario 64 qui vient lui-même de la compilation Super Mario 3D All-Stars. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec la sortie de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Just Dance 2021 sur Nintendo Switch, un jeu d'Ubisoft. En 4ème place c'est Call of Duty Black Ops Cold War sur PS4, un jeu d'Activision Blizzard. En 3ème place c'est FIFA 21 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. En 2ème place Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et enfin en 1ère place c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 PS5 pour ceux qui ont réussi à en avoir une. Alors, on a en 3ème place Spider-Man Miles Morales. En 2ème place, c'est Assassin's Creed Valhalla. Et en 1ère place, Call of Duty Black Ops Cold War. Pour la Xbox Series X, on a en 3ème place Immortals Fenyx Rising. En 2ème place, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et en 1ère place, Assassin's Creed Valhalla. Pour le top 3 PS4, on a en 3ème place... C'est un peu toujours les mêmes jeux, hein. Assassin's Creed Valhalla. En 2ème place, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et en 1ère place, FIFA 21. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place Cyberpunk 2077. En 2ème place, Call of Duty Black Ops Cold War. Et en 1ère place, FIFA 21. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place New Super Mario Bros. 2. En 2ème place, Mario Kart 7. Et en 1ère place, Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place Football Manager 2021, en 2ème place c'est Microsoft Flight Simulator et en 1ère place Cyberpunk 2077, l'édition Collector. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Le jeu de survie multi-développé et édité par Other Ocean arrive prochainement sur Xbox One ainsi que dans le catalogue du Game Pass. Une sortie est également prévue pour PS4 et Nintendo Switch. Donc, dans Project Winter, 8 joueurs doivent coopérer pour survivre dans un environnement enneigé, réunir des ressources et réparer des bâtiments afin d'appeler un véhicule de secours. Mais, dans le groupe, 2 traîtres tenteront de semer la discorde. Sorti en mai 2019 sur Steam, le jeu parviendra sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass, donc PC et console, à compter du 26 janvier prochain. Il sera également déployé sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à une date ultérieure. On passe maintenant à la news technologie. Donc si Sony, Microsoft et Nintendo dominent le marché des consoles de jeux vidéo, il est très surprenant d'apprendre que KFC, la chaîne de fast-food spécialisée en produits à base de poulet, ait également décidé de lancer sa propre console de jeu. Donc non, ce n'est pas une blague, et l'entreprise a révélé que sa console sera équipée d'un chauffe-poulet intégré. Voilà. La chaîne de restauration rapide KFC a lancé une console de jeu équipée d'un processeur Intel et livrée avec une chambre à poulet intégrée qui permet aux joueurs de réchauffer leur collation. La console de KFC est le résultat d'un partenariat avec le fabricant de matériel Cooler Master, a expliqué l'enseigne dans un communiqué. Je cite « La machine en forme de seau comprend la première chambre chauffe-poulet intégrée au monde qui est équipée pour garder son contenu chaud prêt à être consommé pendant les sessions de jeu intenses. » Alors, à rappeler que lorsque KFC a annoncé la conception de cette console au mois de juin dernier, nombreux sont ceux qui ont pensé qu'il ne s'agissait que d'une campagne marketing pour booster les ventes de l'entreprise. Mais il s'avère désormais que la console verra bel et bien le jour. Donc plus spécifiquement, la KFC console fonctionnera grâce à un processeur Intel Nuke 9 Extreme et deux disques SSD Seagate et Barracuda de 1 Tera pour le stockage, selon le descriptif disponible sur le site web de Cooler Master. La console peut même gérer les jeux de réalité virtuelle et les résolutions d'affichage en 4K. Bref, la console devrait n'avoir rien à envier à ses concurrents actuellement disponibles sur le marché. Donc pour l'instant, le prix du produit et sa date de sortie officielle ne sont pas encore connus. On ignore également s'il sera disponible pour le grand public ou s'il s'agira d'une édition limitée réservée à quelques privilégiés. Voilà, affaire à suivre. Du coup, on va pouvoir finir l'émission. Ça va être très rapide. On va parler de la seule et unique sortie de la semaine. Donc, ça sera pour mardi 12 janvier. Ça sera Five Nights at Freddy's Core Collection qui sortira sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune FM. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.